France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le riz au lait est un classique de notre enfance et pour le préparer, c'est facile. Il faut du lait, du riz.
Il n'y a jamais trop de vanille. Franchement, s'il y a bien un arôme où il n'y en a jamais trop, c'est la vanille.
Tout est dans la cuisson lente et maîtrisée. Regardez cet équilibre parfait entre le riz et le lait.
J'attends que ça soit bien infusé, tu vois, ça commence à bouillir. Et je vais remettre un peu de crème dedans.
Ça sent trop bon.
Ouais, et il n'est pas fini encore.
Ça va assez vite, en fait, mine de rien. Il faut juste être à côté pour pas que ça brûle.
Merci, maman. Madame.
C'est onctueux, c'est crémeux, ça me rappelle ma grand-mère.
Les garçons, venez goûter. J'ai fait du riz au lait.
Oh, chouette.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est le dessert d'enfance par excellence, l'un des desserts préférés des Français aussi, même si, on ne va pas se le cacher, certains ne l'aiment pas du tout. Ben, on va essayer de les embarquer dans cette émission. Et ce dessert, c'est la madeleine d'enfance de notre invité du jour. Philippe Toinard, bonjour.
Bonjour à vous.
Journaliste culinaire, chroniqueur chez nos confrères de BFM TV, auteur et co-auteur d'une quarantaine d'ouvrages de gastronomie. On avait beaucoup apprécié en 2003 le 15 Passe à table aux éditions de La Martinière, parce que vous êtes aussi passionné d'Ovalie, de rugby.
Oui, et ancien joueur très amateur de très bon niveau.
Bon. Et vous consacrez un livre entier à votre dessert d'enfance, le riz au lait. C'est mon dessert préféré. 50 recettes délicieusement régressives de chefs totalement addicts aux éditions de La Martinière, toujours. Vous êtes fidèle à votre maison d'édition, avec les photos très gourmandes de...
Guillaume Xver.
Elles sont très jolies d'ailleurs, ce livre fait saliver. C'est un peu les 50 nuances de riz au lait. Et c'est fou ce que les chefs, les boulangers, les artisans peuvent faire avec ce dessert qui est finalement d'une belle plasticité, si j'ose dire.
Même les glaciers.
Même les glaciers, absolument. C'est vraiment des recettes très variées. On va déguster évidemment votre riz au lait, mais attention, votre riz au lait familial, qui, on va le voir, très particulier, parfois un peu risqué, mais également des variations très inspirées que vous avez picorées à Paris et en région auprès de chefs et d'artisans. Pour nous raconter les origines passionnantes du riz au lait dans notre cuisine, nous avions besoin, évidemment, de notre historien maison, Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez enquêté, Loïc, sur le riz au lait avec, on peut le dire, des découvertes assez étonnantes.
Oui, une histoire longue et assez complexe, et puis évidemment, comme d'habitude, beaucoup de légendes.
Très bien, on va voir ça avec vous, évidemment. Les desserts au riz et au lait ne sont pas qu'une affaire franco-française. C'est ce qu'on va voir avec notre spécialiste de la cucina italiana, Alessandra Pierini. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti. Moi, je vais faire fondre en douceur un mythe identitaire de la cucina italiana.
Et oui, vous allez voir, il est aussi question de riz au lait de l'autre côté des Alpes. Le podcast dont on va déguster, ainsi que le podcast de toutes nos chroniques, à retrouver en un clic sur la nouvelle appli de Radio France. Pour réagir dans notre émission en direct, c'est Alessandra qui va se coller aux réactions de nos auditeurs et de nos auditrices. Rendez-vous sur franceinter.fr ou sur notre mail, on va déguster @radiofrance.com. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes nos infos, nos super recettes de riz au lait, le riz au lait aussi familial de Philippe Toinard. Tout ça, c'est sur franceinter.fr à la page on va déguster. Juste avant de plonger dans le riz au lait, un livre coup de cœur que je voudrais vous partager.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Le prix Mange Livre 2024 est donc attribué à Mangeuse de Lorraine Malka. Ah.
Bravo.
Merci beaucoup au jury qui a pris le temps de délibérer avec beaucoup de soin. Merci Eric Fréchon, Diego Delbecq, Jessica Apriapato, Antonin Bonnet, Émeline Aubry, Camille Payot et François-Régis. Merci beaucoup à tous pour cette nouvelle édition du Prix Mange Livre.
Qui se passe cette année dans le restaurant Roseau à Lille. Les débats ont été quand même assez ardus, avec une très belle sélection cette année. Donc pourquoi Mangeuse, s'il fallait résumer les avis de tout le monde, Marie-Laure ?
On a jugé que c'était un livre d'actualité. Chaque femme est concernée par ce sujet. Manger n'est pas anodin pour une femme. Et c'était important d'y revenir avec ce livre qui explique vraiment l'acte de se nourrir pour une femme dans toutes ses dimensions, de la petite enfance finalement, jusqu'à la maladie parfois, et y compris aussi quand nourrir les autres est un projet de vie, est un métier. Il faut se plonger dans ce livre parce que vraiment, c'est une question urgente.
Emeline, pourquoi ce choix ?
À la lumière de l'actualité, je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont besoin vraiment de s'approprier leur corps et de lire toute cette histoire de l'anorexie mentale, de la boulimie qui concerne tant de femmes par des injonctions à devoir montrer le plus beau corps possible, à ne pas avoir de surpoids. C'est des choses qui nous pourrissent le quotidien, à nous les femmes. Et j'aimerais que nous puissions, nous, nous en détacher, mais aussi sensibiliser nos frères, nos maris, nos hommes, nos pères à ces problématiques-là et qu'ils nous soutiennent. Je pense que ce livre doit faire date. Il pose une pierre à l'édifice de ce qu'est le féminisme, bien sûr, mais au-delà de ça, c'est un livre très important et je suis ravie de cette sélection.
Merci Emeline. C'était donc le prix 2024 de Manche Livre, annoncé par la journaliste Marie-Laure Fréchet et qui récompense chaque année un essai, un roman, une bande dessinée, un recueil de recettes traitant des rapports entre alimentation, écologie et questions sociétales. Et ce prix est donc attribué à Mangeuse, hein, Mangeuse au pluriel. Un récit en quête de Lorraine Malka, très fouillé sur une réalité très peu verbalisée dans notre société, les rapports complexes, biaisés entre les femmes et l'alimentation, la cuisine, la table, comment les femmes sont devenues depuis l'Antiquité, comment elles ont été maintenues dans un rapport infantile et coupable à la nourriture. Emeline Aubry évoquait effectivement les troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, perte d'appétit. Ça concerne très majoritairement, à 80-90%, les femmes. Comment les femmes ont été aussi invisibilisées dans l'univers de la haute cuisine réservée aux hommes? Comment le diktat de la minceur prive les femmes du contrôle de leur propre corps face aux normes sociales établies? Et comment aussi, puisque ce livre aborde cette question, les solutions? Comment on réconcilie aujourd'hui et à l'avenir les femmes avec la table? Voilà un texte implacable, très documenté, qui fait réfléchir. Ryoko Sekiguchi, l'écrivaine japonaise qui a préfacé cet essai, le qualifie à juste titre de salutaire. Et vous l'avez lu, Loïc Bianassi, notre historien?
Tout à fait, j'ai beaucoup apprécié. Alors pour compléter un peu tout ce qui a été dit, je pense que c'est aussi un ouvrage qui va sur la longue durée, un ouvrage très sérieux qui aborde des sujets complexes, toutes les facettes de ces sujets, mais qui les rend simples aussi. C'est un ouvrage d'une lecture facile, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le sérieux. C'est très documenté, c'est solide. C'est vraiment, en effet, un livre à lire.
Vous en recommandez la lecture? Absolument. À nos auditeurs et nos auditrices. Oui. Vous l'avez lu, Philippe Tonnard?
Non, mais dans les livres que vous aviez sélectionnés, moi, je suis sur la lecture du livre d'Éric Orsenna avec l'ancien ministre de l'Agriculture.
Julien de Normandie.
Exactement.
Absolument, très intéressant.
Je file dessus.
Mangeuse, histoire de celle qui dévore. Alessandra, vous l'avez lu?
Moi, je l'ai dans ma pile de livres que je suis en train... Je démarre à peine la lecture.
Mais vous allez,
là, j'ai vraiment hâte de continuer.
Vous allez apprécier cette aventure. Oui. Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure. Où se prive à l'excès, de Lorraine Malka, édition Les Pérégrines. Maria Pasquet est à la réalisation avec Lison Berger. Fabrice Rivaud m'aide chaque semaine à construire et préparer cette émission. Dans un instant, du riz, du lait, un peu de sucre aussi, beaucoup, beaucoup d'amour surtout. Ça, c'est juste après War, de la chanteuse de soul new-yorkaise Fouché, choisie sur la playlist de rentrée par l'ami Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
That's why.
lorsque nous lui rendions visite, souvent le dimanche après-midi dans son petit appartement de Paimpol, dans les Côtes d'Armor, mon premier regard n'était pas pour ma grand-mère, mais pour la vitre de la porte du four. Qu'y avait-il derrière cette porte du four? Je vous laisse raconter la suite, Philippe Tonnard.
Alors, cette grand-mère, c'est Marguerite, qu'on surnommait Guiguite.
Oui.
Alors, il faut imaginer, parce que c'est important pour la suite de la recette, c'est une petite dame, elle fait 1m50, elle a des petites mains, et vous comprendrez après la difficulté de ce riz par rapport à la taille de ses mains. Et effectivement, donc, on pouvait assez facilement regarder la porte du four par-dessus son épaule, puisqu'elle n'était pas très grande. Et s'il y avait une jatte à travers la porte du four, c'est qu'elle avait fait son fameux riz au lait. S'il n'y en avait pas, je vous laisse imaginer la déception de mon frère et moi, parce qu'en fait, on venait à Paimpol un peu pour le riz au lait, parce que c'était le must de la famille.
Ah là, plus que pour la grand-mère.
On la voyait à d'autres occasions. Et c'était un riz au lait. Alors, s'il n'y en avait pas, c'est pas parce qu'elle n'avait pas envie de nous en avoir fait, c'est que souvent, elle en faisait dans la semaine pour les voisins. Je me souviens même qu'elle en donnait aux gendarmes, parce que la gendarmerie était juste à côté de son appartement. Et elle faisait du riz au lait et elle le donnait aux gens du quartier. En fait, elle ne le faisait pas payer, elle le donnait. Donc quand il n'y en avait pas, c'est souvent qu'elle en avait fait beaucoup dans la semaine et que, voilà, pour le dimanche, c'était un peu rébarbatif pour elle d'en refaire une énième fois.
Le contenant est très important dans ce riz au lait, parce que vous avez évoqué la jatte.
Oui.
On l'a sur ce plateau, parce que évidemment vous nous l'avez cuisiné, ce riz au lait. Alors, qui dit jatte dit forcément en terre cuite.
Forcément en terre cuite. En 50 ans, c'est le deuxième plat familial. C'est-à-dire qu'il y en a eu un premier qui a éclaté un jour au four, qu'on a eu du mal à retrouver, et dans sa forme, et dans ses couleurs. Et donc, moi, j'ai trouvé ça dans une brocante. Je me suis dit que ça se rapprochait assez bien de l'original, mais c'est pas l'original. Voilà. Alors, ça n'explique pas que je le rate une fois sur deux, mais c'est pas le même plat.
Parce que votre grand-mère Marguerite, donc Guiguite, c'est bien ça,
c'est
a
ça.
Transmis la recette. Alors, oralement ou par écrit, ça, on ne sait pas.
Alors, c'est un bout de papier un peu taché. Et là où l'importance de la taille d'1m50 de ma grand-mère, c'est qu'elle avait des petites mains, alors que son mari faisait 1m90 et avait des
pognes.
Des pognes, voilà. Et en fait, elle est écrite sur ce bout de papier, c'était marqué la quantité. Il n'y a pas de grammage, en fait. Mm-hmm. Depuis 50 ans, il n'y a pas de grammage. C'était écrit 5 à 6 poignées de riz. Sauf qu'en fait, la taille de la main de ma grand-mère n'est pas celle de mon grand-père non plus, et encore moins la mienne, et encore moins celle de ma maman qui m'a ensuite transmis la recette.
Puisqu'effectivement, votre grand-mère l'a transmis à Manou, qui est votre maman, qui l'a cuisiné. Donc autant dire que vous en avez dégusté du riz au lait familial.
Oui, et alors je vous donnais un petit secret avec un truc très industriel que je ne refais plus parce que je le digère assez mal aujourd'hui. Avec mon frère, on poussait la gourmandise à ouvrir une boîte de Mont Blanc, vous voyez, au chocolat.
Ah bah, je vois bien.
Et on glissait par-dessus le riz au lait.
Donc ah, carrément.
Oui, ça faisait un dessert à peu près 3000 calories, je pense. Mais
oui,
c'était un vrai plaisir, mais on ne le fait plus.
Et très, très crémeux. Et ce qu'il y a de tout à fait étonnant, et là, je pense que beaucoup aussi de familles, d'auditeurs et d'auditrices vont se reconnaître dans ce mystère, c'est que ce riz au lait vous a un peu échappé. Il y a un paradoxe, c'est qu'il vous est très familier, vous l'avez dégusté, vous le transmettez de génération en génération. Vous avez des enfants, Philippe ?
Oui,
j'imagine que ce riz au lait sera transmis aussi à vos enfants.
Forcément.
Et en même temps, il a son côté un petit peu sauvage, insaisissable, impalpable. De temps en temps, ce riz au lait vous échappe, on peut le dire ?
Alors,
que se passe-t-il ?
Ben, mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Alors nous, on a essayé avec Manou de comprendre, parce que avec l'évolution technologique, on se dit que le four avait un rôle important, puisque ma grand-mère avait une gazinière.
Mm-hmm.
Sauf qu'on est à peu près tous passés au four électrique. Et donc, une fois sur deux, on a soit du plâtre. Voilà, c'est pas qu'il soit raté, c'est qu'il c'est du plâtre. C'est-à-dire que le riz a tout avalé. Et une autre fois, vous allez avoir une crème incroyable qui est posée sur le dessus du riz, alors qu'on n'a strictement rien changé. Si ce n'est que nos fameuses poignées 5 à 6, nous on les a transformées en cuillère à soupe, mais toujours pas en grammage, ce qui fait que si vous faites une cuillère à soupe bombée ou pas bombée, vous n'avez jamais en fait le même nombre de grains de riz dans ce fameux plat, et donc une fois sur deux, il est raté.
Et vous prenez vos précautions parce que vous avez, alors pour le coup, codifié la recette familiale de manière très précise, avec des grammages qui le sont tout autant, mais vous avertissez vos lecteurs, j'aime beaucoup, attendez, je lis Philippe Tonnard, si à votre tour vous tentez de reproduire notre recette familiale page 14, le bureau des réclamations sera ouvert, mais je serai bien en peine de vous apporter la moindre explication sur les raisons de votre échec, surtout si vous avez suivi la recette à la lettre. Pour vous conforter, il vous restera à reproduire 49 autres recettes, effectivement, que vous avez demandé à vos copains chefs, autres artisans, boulangers, glaciers, pâtissiers. Et c'est vrai que c'est quand même pas une chance sur deux.
On n'en est pas loin. Hein. Mais vraiment, parfois, je descends voir mes parents en Bretagne et Malou fait du riz au lait parce que les petits-enfants descendent. Et parfois, elle a la même tristesse dans son regard. Elle dit « je pense que je l'ai raté ». Ou alors, elle a un grand sourire et dit « je sais qu'il est réussi ».
Philippe Tonnard, vous avez sous votre micro cette fameuse jatte en terre cuite familiale. On sent qu'elle a vécu, hein, la jatte. jatte familiale, hein, pas individuelle, on est d'accord.
Oui.
Il y a une très belle croûte qui pourrait faire penser à une certaine spécialité normande, on va l'évoquer avec Loïc Bienassi. Et sous cette croûte, alors verdict, hein, vous allez prendre votre cuillère, est-il réussi ou raté cette fois-ci? Attention, la main de Philippe Toinard tremble. Et on va le goûter pour vous dire s'il est réussi ou raté. Ah, ça a l'air pas mal. Ouh. Oh là là.
Alors franchement, il est très réussi.
Alors, décrivez le spectacle, parce que vous avez une très jolie croûte de lait qui a bruni.
Parce que, alors, donc en fait, le riz, quand on le cuit, il fait trois croûtes. Une première qu'il faut absolument casser pour remélanger l'ensemble, sinon le riz reste dans le fond. Au bout de 20 minutes supplémentaires, une nouvelle croûte se forme. Là, on l'incise pour, en fait, entre guillemets, dégazer le riz au lait, parce qu'il est enfermé à l'intérieur. Et ensuite, vous le laissez tranquille pendant 1h45, 2h, 2h15, ça dépend un petit peu de votre four. Et vous obtenez cette croûte qui se forme dessus et qui prend un peu la couleur.
Oh là là.
Ouais, il a l'air pas mal.
Alors là, c'est onctueux, crémeux. Il y a des reflets blonds qui montrent une caramélisation du riz. Racontez-nous. Alors évidemment, j'invite les auditeurs et les auditrices de cette émission à se reporter sur votre recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. Preuve qu'on peut le réussir quand même. C'est votre cas ce matin. Les grandes étapes.
Les grandes étapes, et d'ailleurs c'est valable à peu près pour tous les riz au lait, c'est l'importance, c'est de toujours passer votre riz un peu dans l'eau chaude. En fait, vous savez, il y a de l'amidon sur le riz, et en fait ça va permettre, pendant 2-3 minutes, quand vous le laissez comme ça dans de l'eau chaude, de faire en sorte que, si vous ne le faites pas, votre riz au lait va rester aggloméré à l'intérieur. Alors qu'en le passant 2-3 minutes dans l'eau chaude, les grains se séparent les uns des autres, et évacue le trop-plein d'amidon.
C'est ça qu'on appelle crever le riz, non?
Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Oui. Tous les chefs le font. Alors, c'est très sucré, mais il n'y a pas de sucre. C'est juste que c'est du lait concentré, en plus du lait classique. Et c'est ça qui sucre le riz. Beaucoup de gens le trouvent très sucré, mais...
Riron.
C'est du riron. C'est important, c'est l'un des riz majeurs pour réussir son riz au lait. Je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir son riz au lait avec un thaï ou un basmati à la maison. Mais vous n'obtiendrez jamais ce côté crémeux qui est justement dû à l'amidon qui est sur les grains de riz rond, qui est bien plus important qu'un thaï ou un basmati, qui n'en a quasiment pas. Trois gousses de vanille.
Du lait entier. Et effectivement, cet ingrédient que l'on ressent, qui apporte aussi beaucoup d'onctuosité, des petites boîtes, deux petites boîtes, pour être précis sur cette recette, de lait concentré sucré.
Et même ça, on s'est demandé à un moment si notre réussite ou notre échec de ce riz au lait n'était pas dû à la marque, puisqu'il y avait deux marques qui se battaient en duel à l'époque. On ne peut pas citer, mais vous voyez à peu près le type. Et on a parfois, parce que le magasin n'en avait pas, on a pris l'autre et du coup on le ratait. Donc on se demande parfois aussi si l'importance de la marque.
C'est peut-être aussi une question de riz, selon sa teneur en amidon, d'une marque à l'autre, non?
Nous, on prend le riz à dessert classique qu'on trouve directement dans les magasins. J'ai essayé avec du riz arboriaux, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
Alexandra.
Tous ces riz riches en amidon sont importants pour la réussite. Le taux de matière grasse du lait, c'est pour ça qu'on prend du lait entier. Et le sucre, là, en l'occurrence, il est apporté, lui, par le lait concentré.
On a l'impression qu'il y a un petit cousinage de ce riz au lait de Manu, votre maman, avec le dessert normand qui est la tergoule, ne serait-ce que par cette croûte de lait qui se forme à la surface, cette cuisson très longue au four, évidemment le contenant en terre cuite. Il y a quand même quelques différences parce que dans la tergoule, il y a une épice qui n'est pas présente dans votre dessert.
C'est ça, on pourrait le croire vu la couleur, mais il n'y est pas, c'est la cannelle que les Normands mettent effectivement dans la tergoule, et il n'y a surtout pas de lait concentré, eux c'est juste du lait. Avec du riz et de la cannelle. Et c'est cuit très longtemps au four, mais c'est aussi du lait entier, c'est important.
Loïc Bienassi, si je vous dis tergoule, évidemment ça vous parle.
Tergoule ou terrinée d'ailleurs, donc c'est dans une terrine exactement. Spécialité normande, spécialité de Basse-Normandie, de la plaine de Caen même, plus précisément. Alors il y a tout un tas d'histoires qui circulent, comme quoi des corsaires seraient revenus avec des épices, de la cannelle donc, comme quoi un intendant, 1757, aurait donné la recette parce qu'il y avait une disette et il aurait fait distribuer du riz et aurait donné la recette de la tergoule. Alors il y a des petits bouts de vérité là-dedans. Premier point en effet... Parce que la Normandie a des différents ports.
Parce que le riz aussi est tout,
oui,
sauf,
c'est ça, on se dit,
et tout sauf une céréale normande.
Exactement, on se dit ça ne fait pas trop spécialité locale. Mais la réalité, c'est qu'on trouve des achats de cannelle et de riz dès le XIVe siècle en Normandie. Donc c'était connu, parce qu'il y a des ports en Normandie. Premier point, donc les corsaires, là, non, mais en tout cas l'accès à la mer, oui. Et la question de l'intendant, c'est assez intéressant, parce qu'en effet, il y a des distributions de riz qui étaient faites en cas de disette, effectivement, au XVIIIe siècle. Et donc, il y avait une familiarité même des plus pauvres avec le riz. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on trouve une recette qui s'appelle touille goule, première moitié 18e siècle, mais sans riz. Et ça, c'est un phénomène classique en histoire de l'alimentation, d'avoir une recette avec certains ingrédients, puis un nouvel ingrédient arrive, le nom reste, même si la recette évolue radicalement. Et les recettes de turgoule, à ma connaissance, identifiées, c'est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc on peut imaginer, 18e, 19e siècle, que petit à petit, le riz s'est imposé, pleine de camps, encore une fois, pour cette recette qui est devenue un grand classique de la cuisine locale, un plat de fête, un plat aussi des grands repas collectifs au cours du 19e siècle.
On a pas mal de réactions d'auditeurs et d'auditrices qui nous rappellent l'origine du mot turgoule.
Alors, turgoule, tordre la goule, faire des grimaces. Alors, on dit parfois...
Quand le riz est trop chaud.
Voilà, parce que c'est trop chaud, ou parce que peut-être que... Ah bah, ça renvoie peut-être au plâtre, c'est-à-dire que peut-être dur à manger dans beaucoup de cas, et donc on se tordait la goule pour le faire. Bon, on ne sait pas exactement. D'ailleurs, je vous dis, la première occurrence, c'était plutôt touille goule. Alors bon... Le mystère plane.
Le riz au lait, c'est mon dessert préféré. 50 recettes délicieusement agressives de chefs totalement addicts. Moi, je salive à chaque page de votre bouquin, Philippe Toinin. Vous avez fait un sacré boulot de recensement et qui montre que le riz au lait peut être adapté à d'autres contextes, peut s'hybrider avec d'autres spécialités pâtissières. On retrouve aussi, attention, des recettes très classiques et très belles. Il y a personnellement, dans votre livre, ma recette préférée, celle que je cuisine depuis des années, on peut le dire, qu'on a dégusté à la régalade, ou même aujourd'hui au relais du comptoir, c'est évidemment la recette de...
Bruno Doucet.
Bruno Doucet, le chef Bruno Doucet. Alors c'est le riz au lait au pied de la lettre, avec de la vanille, juste du lait, qui est assez facile à faire. D'ailleurs, on a tourné avec les équipes de France Inter, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le site de notre émission. Mais il y a aussi, au-delà de ce riz au lait très classique, et c'est toute la vertu de votre livre, il y a des recettes basiques, j'ai envie de dire, et d'autres qui sont au contraire très sophistiquées, parfois même assez techniques.
Oui, en fait, l'idée, c'est que j'avais peur, en demandant à l'ensemble de ces artisans ou ces chefs de me faire du riz au lait, qu'ils me proposent tous en fait leur riz au lait dans un saladier ou dans une jatte. C'était assez évident. Donc je leur ai dit, montrez-moi que ce dessert, qui pour moi est un dessert, alors effectivement de famille, mais aussi un dessert de bistrot, et qui est un résistant, parce que quand on regarde les nombres de nouveaux desserts qui apparaissent régulièrement, les panna cotta, les crèmes brûlées, les tiramisu, ça commence un peu à disparaître, mais s'il y en a deux qui restent en place, c'est les riz au lait et la mousse au chocolat. Voilà, eux, ils sont toujours là. Et donc je leur ai dit, faites-moi des créations qui vous font plaisir. Donc comme vous le dites, il y a effectivement du double étoilé Michelin qui a proposé son nuage de riz au lait, des boulangers qui se sont amusés à garnir des pains ou des New York Rolls, parce que c'est un peu la tendance. Voilà, ils sont tous partis dans des délires un petit peu créatifs, mais qui montrent que le riz au lait a une autre vie que dans un saladier.
On trouve une pavlova au riz au lait, un baba de riz au lait, un pâté en croûte de riz au lait, des choux fourrés au riz au lait, c'est tout à fait étonnant. Et on va d'ailleurs, puisque vous avez eu la gentillesse de nous apporter des déclinaisons, on va déguster avec vous deux variations autour du riz au lait, l'une qui nous vient de Bretagne et l'autre de Paris dans un instant. Mais on voudrait en savoir plus, évidemment, sur les origines de ce fameux riz au lait. Cher Loïc.
Alors, encore une fois, c'est une histoire longue. Une histoire longue. Alors, on peut parler du riz, avant de parler du riz au lait. Le riz, alors, apparition, domestication, 7000 ans avant Jésus-Christ, sud de la Chine actuelle. Et puis, il y a ce glissement vers l'Europe qui est très progressif, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, cultivé dans la vallée de l'Indus. Et on est sûr qu'il est présent au Proche-Orient, sans doute premier siècle avant Jésus-Christ. Mm-hmm. Donc on a ce glissement jusqu'en Europe. En Europe, en Occident, dans l'Espagne musulmane, il est cultivé au 8e, 9e siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, le riz a été cultivé en Europe. Il faut déjà garder ça en tête. En France, on a des traces d'importation à Perpignan au 13e siècle. Et puis on a une culture du riz qui se lance, alors pas en Camargue, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, mais quand même en Provence ou dans la région de Cannes, notamment au 16e siècle. On a là du riz qui est cultivé, puis ça finit par péricliter. Ça ne signifie pas, par contre, que comme au Moyen-Âge et en fait tout au long de l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle, on importe du riz. On importe du riz, alors on l'a importé d'Espagne, on l'a importé de Sicile, et 18e siècle, par exemple, il est notamment importé de l'Empire ottoman, parce qu'il est cultivé dans le delta du Nil, par exemple, de manière très importante. Donc on connaît le riz en Occident depuis le Moyen-Âge, ça c'est incontestable. On le connaissait durant l'Antiquité, il a été redécouvert au Moyen-Âge. Et en Camargue, en fait, petite parenthèse, la culture du riz décolle véritablement, commence un peu au 19e, mais à partir des années 40, 1940. Donc c'est finalement assez récent.
Il s'agissait en plus d'assainir des régions marécageuses.
Il s'agissait d'assainir, d'enlever d'ôter le sel, de l'eau, il y avait différents enjeux. Et puis finalement, il y a eu ce décollage, cette spécialisation, encore une fois, à partir de 1942. Alors, quelle recette ? Puisqu'on connaît ce riz, quelle recette ? Au Moyen-Âge, on utilise par exemple la farine de riz dans certaines recettes, notamment pour faire ce qu'on appelait les blancs mangés, enfin une recette qui existe encore aujourd'hui. Et puis, il y a certaines recettes qu'on retrouve dans plusieurs traités, ce qu'on appelle le riz engoulé. Engoulé parce qu'il a une couleur un peu rouge, gueule, c'est un terme d'héraldique, c'est-à-dire que ça renvoie à cette couleur rouge. Par exemple, Ménager de Paris, fin 14e siècle, on a une recette qui est trier et laver le riz dans deux ou trois bains d'eau chaude et mettez-le à dessécher sur le feu, puis versez dans du lait frémissant, ajoutez du safran pour jaunir, d'où le engoulé, que vous délairez dans votre lait. Ajoutez pour finir du gras de bouillon de bœuf.
Donc on n'est pas du tout dans une spécialité sucrée.
On n'est pas dans une spécialité sucrée, mais on est dans du riz au lait, c'est sûr. Et on a un témoignage, on est 1560, Jean Bruyérin-Champier, là donc Renaissance, 16e siècle, 1560, qui explique que le riz au lait est quelque chose d'assez courant, même dans les repas de fête paysans, et il explique aussi que les femmes de la cour, qui se trouvent trop maigres, en mangent pour grossir, avec beaucoup de lait et beaucoup de sucre. Donc l'idée d'un aliment qui fait grossir. Et puis le grand texte fondateur de la cuisine française, 1651, le cuisinier de français de la Varenne, donne une recette de riz au lait bien sucré, je reprends sa formulation.
Ça s'appelle déjà riz au lait.
Ça s'appelle riz au lait, tout à fait. Et il explique qu'il faut le laver, le faire sécher devant le feu une fois qu'il est bien sec. Vous le faites mitonner avec du lait bien frais. Prenez garde de ne pas le noyer. Vous le ferez cuire à petit feu, remuez souvent, de peur qu'il ne brûle. Et à mesure, mettez-y du lait. Et on a petit à petit, comme ça, le corpus de recettes qui s'étend. 18e siècle, on a tout un tas de recettes. Riz au caramel, riz soufflé, on met des œufs en neige dedans. Riz meringué, on place des blancs en neige sur le dessus avant de le mettre au four, donc d'où la meringue. Donc voilà, petit à petit, au 19e siècle, évidemment, là aussi, les recettes se multiplient. On a notamment, là, elle apparaît dans les années 1860, le riz à l'impératrice. Là, c'est tout à l'heure, on parlait des glaciers. Justement, le riz à l'impératrice, c'est un peu la recette par excellence de riz que l'on met à glacer, justement, riz glacé, qui est une des grandes recettes, un des grands desserts de la cuisine française, avec des fruits confits notamment, aussi de la confiture éventuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, au fond, remonte dans tous les traités culinaires de l'histoire de la cuisine française, on retrouve du riz au lait, finalement, avec des usages divers. En effet, des plats qui parfois étaient également salés. Hein. Mais c'est vraiment une constante. On parlait de son ancienneté, mais elle est peut-être encore plus grande que ce qu'on imagine spontanément.
C'est ça qui est incroyable. Moi, je n'imaginais pas du tout une telle ancienneté de ce dessert familial, ménager, Philippe Tonnard.
Oui, parce que, bravo pour le travail de recherche, parce que j'avais un peu regardé, mais je ne pensais pas qu'on remontait aussi loin, en fait. Pour moi, le riz au lait, c'était fin 18e, début 19e, c'est son apogée, mais en fait, on se rend compte qu'il était déjà là bien avant nous.
Et le riz au lait a aujourd'hui un statut très ménager, si j'ose dire, c'est très cuisine domestique, alors que le riz au lait, finalement, a fait partie et fait encore partie des sphères de la haute cuisine.
Il joue sur tous les tableaux, en fait, parce qu'il était aussi préparation domestique. Quand je parlais de Bruyérin-Champier au XVIe siècle, il le présente un peu aussi comme ça. Donc, c'est un peu une autre caractéristique, d'ailleurs, de jouer sur tous les tableaux, depuis le Moyen-Âge, sans doute.
Loïc Bienassi, vous avez par ailleurs une petite actualité. Je brandis sur ce plateau, à la table du château de Chambord, aux presses universitaires François Rabelais de l'université de Tours, dans une petite collection d'ailleurs que vous co-dirigez. C'est un petit livre que j'ai adoré, que j'ai lu cet été, très instructif, qui donnerait presque envie de vivre à l'époque de François Ier. Alors il est moins question de riz au lait dans ce livre à la table du château de Chambord que de carpe à la Chambord, par exemple.
À carpe à la Chambord, alors évidemment, comme d'habitude, alors on parle de cette recette emblématique, même si, à proprement parler, elle n'est pas liée à Chambord, parce que comme toutes les appellations culinaires, évidemment, les noms, je ne vais pas dire, sont donnés au hasard, mais un peu quand même, c'est-à-dire que c'est le prestige de Chambord qui fait qu'on a baptisé la recette de cette manière-là, une des grandes recettes de la haute gastronomie française, qui apparaît au XVIIIe siècle, mais dans des versions totalement différentes de celles qui s'imposent ensuite à partir du XIXe siècle. Donc oui, il y a cette recette sur laquelle je m'arrête, et qui là est proposé aussi par Christophe Hay, qui est...
le chef de Blois.
Exactement. Et puis sinon, je retrace tous les aspects de cette histoire, que ce soit, j'ai envie de dire, la culture matérielle des cuisines, ou les banquets, ou... Parfois, on cherche à gratter, parce que François Ier à Chambord, on ne connaît pas toujours bien, on essaye de déterminer tout ce qu'on connaît. Mais c'est... cette collection générale qui touche aux différents monuments. On a fait Valençay, on a fait le château de Blois. C'est quelque chose qu'on cherche à pérenniser.
À la table du château de Chambord de Loïc Bienassy. Très intéressant quand on s'apprête à visiter ce fameux château de la vallée de la Loire, ou quand on l'a visité. Très intéressant. Dans un instant, de super déclinaisons de riolet servis sur ce plateau par Philippe Toinard. Je suis aussi allé goûter le riolet qui est souvent considéré comme le meilleur de Paris. On vous le dévoile dans un instant. Français Tropic Hotel.
On va déguster. Sur France Inter.
Notre menu dominical, le riolet, l'un des desserts qu'adorent les Français, ses origines, ses recettes, ses mystères, tout sur cette recette iconique, avec Philippe Toinard qui signe un très joli livre. Le riolet, c'est mon dessert préféré, 50 recettes délicieusement agressives de chefs totalement addicts aux éditions de La Martinière. Il y a aussi, pour nous éclairer sur l'histoire de ce riolet, Loïc Bienassy, notre spécialiste de la cuisine italienne qu'on va écouter dans un instant, Alessandra Pierini. Beaucoup de questions d'auditeurs sur notre mail. Alessandra, oui. Si vous pouvez nous faire un petit résumé.
Vraiment une avalanche très crémeuse, je dirais. Et plein d'auditeurs me demandent si on peut utiliser d'autres laits, bien sûr, que le lait de vache.
Parce qu'il y a évidemment des problèmes d'intolérance au lactose, par exemple. Il y en a qui sont par choix végétaliens, c'est-à-dire qu'ils ne consomment pas de protéines animales. Quelles sont les alternatives, Philippe Toinard ?
Eh bien, celui que vous allez goûter, par exemple, est à base de lait de coco. Donc là, vous n'avez pas de lactose dans le lait de coco. Et puis surtout, ça donne un goût important. Et puis après, vous avez une série de...
Aussi,
Alors, la seule chose qu'il faut vérifier sur le lait de coco, en fait, c'est... Le lait de coco, c'est juste de la noix de coco qu'on a pressée et on ajoute de l'eau. Il faut essayer de calculer, parce que tous les fabricants ne font pas des bons laits de coco. Il y a trop d'eau, du coup, ça n'a pas beaucoup de goût. Donc, vérifiez ça.
Il faut essayer de le prendre en général à 70% au minimum.
C'est ça, exactement. Et puis après, vous avez les laits végétaux qui fonctionnent bien. D'ailleurs, dans le livre, il y a un pâtissier qui s'appelle Nicolas Paciello qui a fait un riz au lait. Au lait d'amande. Là encore, il faut juste faire attention aux étiquettes, parce qu'il y a parfois beaucoup d'additifs. Mais quand on a un problème avec le lactose, voilà deux solutions pour faire le même riz au lait en changeant le lait.
Et alors, si on prend un lait animal, est-ce qu'on peut jouer la variation, s'écarter du lait de vache pour préférer un lait de brebis ou un lait de chèvre ?
Oui, alors on a de la chance avec le lait de chèvre, c'est qu'il a à peu près le même taux de matière grasse que le lait entier de vache. Mm-hmm. D'ailleurs, on prend souvent du lait entier pour le riz au lait, on prend rarement du lait crémé ou du demi-écrémé, parce que le taux de matière grasse a une importance dans la production du riz au lait. Après, vous avez le lait de brebis, mais alors lui qui est extrêmement riche, parce que je crois que c'est le double de pourcentage de matière grasse par rapport au lait de chèvre et au lait de vache, ce qui fait que ça peut vous faire un très bon riz au lait, mais alors ça va être bien gras quand même en termes de d'onctuosité.
Une autre petite question, Alessandra ?
Bah oui, on me demande très souvent où se place la frontière entre le riz au lait et le gâteau de riz.
Et oui, c'est vrai. Alors la frontière, elle est un peu floue, mais il s'agit peut-être d'une affaire de texture quand même.
De texture.
Et de technique de cuisson.
Oui, ça peut être aussi le plat, parce qu'en fait, si on est sur un plat un peu rectangulaire, pas très haut, ça ressemble plus à un gâteau que quand on est dans une jatte ou un saladier. Il y a un chef, par exemple Thomas Brachet, dedans, qui a fait lui une tarte de riz au lait. Donc il a fait une vraie tarte qu'il a garnie d'un riz au lait, donc on peut considérer que c'est un gâteau. Mais parce qu'on n'est pas sur, une fois de plus, un saladier avec du riz au lait à l'intérieur.
Voilà.
D'accord. Et puis on le fait cuire au four, probablement plutôt plus le gâteau qu'un riz au lait qu'on fait cuire à la casserole.
Et 40 minutes le nez dessus.
Et dans le genre excellente variation, ce riz au lait de coco de William Lamanière, Maison Lamanière, près de Rennes. Ça, c'est une belle recette. Loïc, vous en pensez quoi ? Vous avez déjà fini votre bol ?
Du tout, j'en suis au deuxième.
Il a fini son deuxième bol. Ah, il est quand même, quand on vous disait qu'il est gourmand, c'est pas seulement le rat de bibliothèque qui fouille.
Je ne suis pas un pur esprit. Donc non, il est délicieux. Moi, j'adore le lait de coco. Il est crémeux.
Mais il a ce petit accent exotique, ce petit accent lait de coco très caractéristique.
Mais subtil en même temps. Ouais.
Et normalement, William, alors moi je ne voulais pas présenter comme ça, mais lui, il préconise d'acheter des noix de coco, de les casser en deux, de creuser un tout petit peu pour récupérer un petit peu de noix de coco, de garnir la moitié de la noix de coco de son riz au lait, de saupoudrer de noix de coco dessus, et on le mange en le tenant dans le creux de la main.
Il y a également de la vanille. Alors, il complète le lait de coco, qui est quand même très gras, avec un tout petit peu de lait entier.
C'est ça, il fait deux tiers, un tiers. Deux tiers de lait de coco et un tiers de lait de vache. Et important, juste une petite parenthèse sur la vanille, parce que les chefs ont des façons de s'approvisionner en vanille qui ne sont pas celles du grand public, parce qu'ils ont des qualités de vanille autres que les nôtres.
C'est vrai.
Donc souvent, moi, si vous lisez le livre, doublez le nombre de gousses qui sont préconisées. Parce que eux, quand ils disent une gousse de vanille, on sait très bien qu'ils ont des très belles gousses de vanille, très bien garnies. Alors que nous, on a ce qu'on trouve en magasin et on n'a pas une épicerie avec de la vanille sous le nez tous les matins. Donc quand on va en grande surface acheter une gousse, on se retrouve avec une petite ficelle là, où il n'y a pas grand-chose dedans. Donc multiplié par deux, vous aurez un vrai goût vanillé.
Vous avez raison de le préciser, Philippe Toinard. Si je vous dis l'un des meilleurs riz au lait de Paris, si ce n'est le meilleur, est-ce que vous me voyez venir ?
Ah bah oui, on va dans le 7e arrondissement.
Stéphane Géco, quand même,
voilà.
Dont la recette figure dans votre livre. Il est le champion du riz au lait à Paris, au fourneau, comme vous l'avez dit, de l'Ami Jean, l'auberge canaille qu'il tient depuis quand même 22 ans, presque un quart de siècle, au 27 rue Malard, Paris 7e. Je suis allé lui rendre visite, avec une cuillère, évidemment.
Voilà, regarde, je te dresse une assiette.
Ah ouais.
Alors là, tu vois, François, c'est très simple. Là, t'as la cuillère en bois, ce bol... Très simple, très gourmand, mais très généreux.
Alors un bol qui a plutôt la taille d'un saladier, en fait.
Il y a 22 ans, on n'était pas, si tu veux, dans la restriction. 22 ans après, on n'est pas dans la restriction. On est dans l'opulence, la gourmandise. Et donc à côté, t'as un petit verre d'école, toi, avec la nougatine, petite cuillère très simple. Le caramel au beurre de micelle, qui est, on va dire, la base d'une sorte de bavaroise. On va dire légèrement avec un beurre de micelle, légèrement monté à la crème, très légère, fouettée. Et donc tu associes le tout...
Tu saupoudres de fruits caramélisés ?
Ah oui.
Des fruits secs ?
Là, il y a des noisettes, des noix, des pistaches, des amandes effilées, des amandes entières.
Tu peux goûter ?
Avec plaisir. Tu sens ce beurre de micelle, cette onctuosité et ce croquant.
Comment tu décrirais la consistance exceptionnelle de ce riz au lait ?
Nuageux. Il faut respecter juste toute la finesse de cuire ton riz dans un lait vanillé non sucré au départ. Ensuite, quand le riz a explosé, a bu cette générosité de lait, de vanille, tu rajoutes le sucre. Et de là, tu le recuis tranquillement et ensuite tu le laisses refroidir. Et après, tu montes une crème fouettée non sucrée. Je précise non sucrée, qui va t'emmener cette légèreté. Et c'est ça qui va te donner ce côté nuageux. Donc j'ai emmené toute cette gourmandise-là au milieu de la table. Et ça a fait vraiment le buzz. Et ça a fait 20 ans, 22 ans après. Voilà. Il a été élu dans les 10 meilleurs desserts au monde, à côté de Ségolène, Pierre Armé. C'était Vanity Fair à l'époque qui avait fait un sondage mondial. Nous, on pensait que c'était des bêtises. On ne pensait pas arriver à côté de ces grands maîtres du sucre, ces grands maîtres de la gourmandise avec notre riz au lait. Et si. Et c'est ça qui fait toute la différence, justement.
Est-ce que tu vends du riz au lait à tous les services?
Ah oui, on en vend, on en passe. C'est incroyable. On en a toutes les semaines qui réservent. La dernière fois, ils étaient 4, ils ont réservé la table. Et ils ont été très clairs. Nous, on est venus pour 4 riz au lait. Et donc, il y a des gens qui traversent la moitié de la planète pour ce riz au lait. Et ça me fait vraiment très plaisir que 22 ans après, on est encore là et on en parle encore.
Merci Stéphane.
Mais je t'en prie, c'était un grand plaisir.
Traverser la planète pour un riz au lait, c'est pas bien. Hein. Attention quand même à son bilan carbone. Le riz au lait de Stéphane Jégot à La Mijan, à Paris, classé quand même dans les 10 meilleurs desserts du monde par le magazine américain Vanity Fair. Il n'a pas de recette précise
J'ai un peu galéré avec Stéphane. Parce qu'en fait, il met des grammages, mais en fait, dans son...
Il veut garder ses secrets plutôt, non?
Non, mais en fait, il le fait depuis tellement longtemps que lui, c'est naturel. C'est un peu la recette de Manu et de Guigui. C'est-à-dire qu'il sait qu'on le fait comme ça, on pourrait lui bander les yeux, je pense qu'il le réussirait du premier coup, parce que c'est devenu anodin pour lui, en fait, sur le principe. Mais techniquement, pour la retranscrire dans le livre, je l'ai un peu fait parler quand même.
Et Philippe, des auditeurs nous demandent où déguster ce riz au lait de coco. Alors d'abord, il y a la recette, qu'on peut retrouver évidemment dans votre livre sur notre site internet franceinter.fr, à la page on va déguster, le riz au lait de coco de William Lamanière.
William Lamanière, c'est un boulanger-pâtissier qui est installé au Reux, c'est juste dans la banlieue de Rennes.
Mmh. Et c'est donc une pâtisserie en fait.
C'est une pâtisserie, exactement. Et d'ailleurs, c'est à noter que certains artisans dans ce livre ont décidé de mettre en vente les créations qu'ils ont imaginées pour le livre.
Magnifique. Ouais. Et le riz au lait de coco, on est à peu près sûr de le trouver au jour d'ouverture?
Peut-être pas aujourd'hui, mais je pense qu'en travaillant William au corps, on peut réussir à obtenir une zâtre pleine.
On va traverser les Alpes avec Alessandra Pierini. On va voir que le riz au lait botte aussi les Italiens.
France Inter.
Bon appétit.
On va déguster. Que seraient les cuisines milanaises, vénitiennes, romaines et siciliennes sans leurs fameux risotto, risi e bisi, supplì ou arancini? Toutes des préparations à base de riz qui représentent aujourd'hui des symboles identitaires de la cuisine régionale italienne. Et sur ça, on est tous d'accord. Mais même si on a du mal à y croire, avant de devenir la star de ces recettes salées, le riz en Italie avait surtout une attirance pour le sucre. Dans ses premières utilisations documentées dans la cuisine italienne, entre le Moyen-Âge et le milieu du XVIe siècle, le riz était associé à des recettes pâtissières. Et si le riz, dans toutes ses préparations, était cuit de base dans le lait avec l'ajout de sucre et surtout des amandes, c'est plutôt sous forme de gâteaux cuits au four ou frits qu'on retrouve le riz sucré dans la cuisine de la botte. Et c'est encore bien vrai de nos jours.
Donc ça veut dire, Alessandra, que la version classique du riz au lait qu'on connaît à la cuillère dans un saladier comme en France, c'est pas très développé en Italie?
Eh ben non. Pas tellement, on a plutôt tendance à enrober le riz, à le cacher dans des farces, comme dans la célèbre torta di riso, qui est le gâteau de riz de Maestro Martino, qui est le principal cuisinier de la Renaissance, qui prévoyait une farce à base de riz, de lait animal ou de lait végétal, surtout du lait d'amande.
Déjà.
Pour les périodes de maigre et aussi pour le carême, de la poudre d'amande, du sucre, de l'eau de rose, et qui était renfermée dans une pâte sucrée et ensuite cuit au four. C'est une préparation qui est encore d'actualité dans différentes régions avec des variantes. Et c'est aussi au célèbre gastronome qu'on doit aussi une des premières recettes de beignets de riz, qui sont les frittelle di riso. Aujourd'hui, elles sont aussi très répandues avec d'autres noms. On l'appelle les zeppole, les sfinci, ou alors les crispelle, et on les prépare du centre de l'Italie jusqu'en Sicile. Et ces beignets surgissent surtout, on les retrouve dans la période donc du carnaval,
Et il se place un peu sur l'invocation de Saint-Joseph le 19 mars, qui coïncide aussi avec la fête des pères.
Mais ils sont gâtés les papas en Italie.
Ah oui, et dans ces douceurs qui se mangent là, chaudes et croustillantes, hein, pas comme le riz au lait qui se mange plutôt froid. Le riz est parfumé selon les endroits, soit avec des zestes de citron, de l'orange, de la cannelle, ou bien fourré de raisins secs, de pistaches ou de ricotta. Ce qui est très important, et c'est qu'on garde toujours un cœur bien parfumé et très moelleux. Mais quand à partir donc de la moitié du 19e siècle, la riziculture a été vraiment dans son apogée en Italie, le riz sucré a été surtout propagé grâce aux mondines, qui étaient les ouvrières agricoles des rizières, qui recevaient donc toujours une certaine quantité de riz pour compléter la paye. Donc elles avaient ça chaque jour. Et donc c'est à ce moment-là que le riz au sucre devient surtout une recette très paysanne et réalisée avec les ingrédients donc qu'on avait à disposition. En Italie, on produit énormément de variétés différentes et pour faire le riz au lait. Et selon la texture qu'on veut obtenir, on peut avoir soit vraiment le riz typique pour les gâteaux, qui est la variété originario ou tondo, ce qui veut dire vraiment rond, qui est très absorbant, avec un fort pouvoir collant. Ce riz donc libère vraiment beaucoup d'amidon et il est parfait pour le riz au lait, que nous en Italie on appelle le riso latte, mais aussi pour le gelato di riso, la délicieuse glace de riz. Mais c'est une variété qui est quand même moins facile à trouver en France. On le fait aussi avec le carnaroli pour garder un peu plus de texture, surtout pour les beignets de riz, mais on utilise maintenant le plus souvent de l'arborio.
Le riz à risotto,
un riz à risotto qui est un côté vraiment bien moelleux, crémeux, mais qui garde aussi en même temps une bonne tenue, qui sera parfait aussi pour, par exemple, la recette florentine du budino di riso, qui est une tartelette ovale de pâte brisée avec une farce à base donc de riz cuit dans le lait, de crème pâtissière cette fois-ci, de l'écorce d'orange et surtout qu'on mange à Florence pour le petit déjeuner. Et pour ça, pour aller la déguster à Florence, j'ai aussi une très très bonne adresse d'une boulangerie de quartier qu'on a même dégusté ensemble.
Je vois très bien ce que vous voulez dire, chère Alessandra. Santo Forno avec notre ami Bernardo Conticelli.
Absolument.
Je me souviens très bien, très beau souvenir à Florence.
Un copain dans le quartier de San Frediano. Et d'ailleurs, j'ai presque failli faire cette recette tellement je l'ai appréciée. Et puis, je me suis plutôt laissée tenter pour la célèbre Torta degli Addobbi de Bologne, qui est un gâteau qui est associé à la fête religieuse degli Addobbi, donc qu'on peut traduire par fête des décorations. Pendant cette fête, une fois tous les 10 ans, donc depuis 1470, les habitants décorent leur maison avec des différents tissus, d'où donc le nom de la fête et du gâteau. Mais maintenant, on le prépare bien sûr tout le long de l'année. Et dans ce gâteau, on y retrouve du riz. Moi, j'ai utilisé la variété riz rond de Camargue, qui est vraiment extraordinaire.
Alessandra Pirini qui utilise du riz made in France.
Pour un dessert italien, bah oui, on consomme français aussi. Donc le riz, comme dans les recettes ancestrales, est cuit dans le lait, dans le sucre, dans les amandes. Et en plus, nous y retrouvons des œufs, du cèdre confit, et pas mal de cèdre confit. Donc là, c'est un cèdre confit de Corse, de la liqueur d'anis. Moi, j'ai mis du pastis provençal et du zeste de citron. C'est un gâteau qu'on découpe rigoureusement, comme vous voyez, donc en losange, et après l'avoir gardé bien une journée au frigo.
Torta degli Addobbi.
Addobbi, absolument. Ah,
c'est extraordinaire. C'est fait ça. Quand même avec des ingrédients français. Vous en pensez quoi autour de ce plateau, Philippe?
J'aime beaucoup le. En fait, la première bouchée, on se demande quel est l'agrume. Et maintenant que vous l'avez dévoilé, c'est le cèdre. Et c'est incroyable, parce que ça apporte une douceur et non pas une acidité.
Et ouais, c'est extraordinaire. Et puis, il y a ce goût italien, quoi, aussi.
Oui, tout à fait. Moi, je pensais que c'était l'orange, en fait. J'arrivais pas à déterminer. Et,
c'est le mélange du citron, le cèdre. Donc, après, enrobé, bien
sûr. Une trame fruitée qui est tout à fait remarquable. C'est très, très intéressant. Alessandra, merci beaucoup. Elle évoquait, notre chère Alessandra, le choix de la variété de riz pour faire un riz au lait. Il y a une petite tendance qu'on voit se développer sur les réseaux sociaux qui consiste à utiliser pour ces riz au lait un riz japonais, un riz à sushi.
Oui, parce que lui aussi, il est riche en amidon. D'ailleurs,
c'est ça, en fait, le but du jeu. C'est d'avoir un riz riche en amidon parce que l'amidon est en quelque sorte un épaississant naturel qui contribue à l'onctuosité du riz au lait.
C'est ça. Et donc, une fois qu'on l'a passé dans la fameuse eau chaude, il va commencer à s'éclater gentiment. Et c'est parce que le grain s'éclate qu'il absorbe l'autre liquide qu'on va lui donner, en l'occurrence le lait ou la crème. Et donc tous ces riz riches en amidon sont bons pour faire... Si vous l'avez très bien dit, si vous n'avez pas de riz à dessert à la maison, mais vous avez de l'arborio, faites l'œil de l'arborio, ça va très bien fonctionner.
De l'arborio qu'on utilise aussi dans le fameux risotto milanais, évidemment. Cher Loïc Bianassi, donc, si je comprends bien, et Alessandra a commencé à nous le prouver, le riz au lait, la France n'en a pas le monopole.
Non, loin de là. Tout à l'heure, j'évoquais en fait ce voyage un peu autour du monde qu'a fait le riz, enfin comme d'autres plantes, sauf que là, on a quand même une céréale qui occupe beaucoup de place dans l'alimentation et on se retrouve en Italie. Bon, là, je ne reviens pas là-dessus, mais en Espagne, la rose con leche, on a évidemment le rice pudding en Angleterre. En fait, dans le monde germanique, il y a aussi, en Hongrie, on a aussi tout un tas de traditions.
C'est la fête des accents.
Ah ben non, justement, c'est pour ça que je dis dans le monde germanique sans trop m'aventurer à prononcer. Hein. Riz au galop, en Grèce.
Oui.
Hein, voilà, tout à fait. Et riz au lait, la saupoudrée de cannelle. D'ailleurs, souvent ce jeu avec les épices et puis avec les agrumes aussi. Il y a quand même beaucoup de recettes aux agrumes. Évidemment, j'aurais presque dû commencer par là. En Inde ou en Iran, on a aussi beaucoup de recettes. Et alors là, pour l'accent, je ne demande même pas si c'est correct.
Non,
en Iran, on a le cholézard. Hein, bon, voilà, là, on doit avoir une flopée de mel. C'est un riz au lait persan au safran. Donc, cette association aussi est là, tout à fait courante avec des épices, le safran en l'occurrence.
Merci beaucoup, Luc Bianassi. Et on finit en beauté, en douceur, avec une espèce d'avatar pâtissier que vous nous avez rapporté, qui a été spécialement fait pour nous par
le chef Jean-Marc Notelet du restaurant Caius.
Et quel chef, restaurant Caius, on n'est pas très loin de l'Arc de Triomphe pour une très belle adresse bistronomique et pour ce dessert assez curieux mais très très intriguant.
Oui, parce que Jean-Marc a des origines du Nord et ça c'est ce qu'il appelle le libouli. Donc c'est du ch'ti du côté dans le boulonnais, donc en fait ça veut dire lait bouilli. Et c'est en fait une brioche dans laquelle normalement c'est, on va dire, gavé d'une sorte de flan ou d'une sorte de crème pâtissière que lui a reproduit. Et par-dessus, il a déposé un riz au lait. Et par-dessus, là aujourd'hui il nous a mis des figues, mais on peut y mettre n'importe quel fruit de saison du moment. Là il a mis figues et quelques petites noisettes caramélisées.
Donc soyons d'accord, la tarte au libouli, lait bouilli comme vous l'avez dit, hein, donc c'est une spécialité du nord de la France.
Oui.
Il l'a réalisé à sa manière puisqu'il vient du Nord, de Boulogne.
C'est ça.
Et il l'a adapté avec une surface de riz au lait très onctueux.
C'est une sorte de grand flan avec un riz au lait par-dessus. Et d'ailleurs, c'est un des points communs avec tous ces chefs, c'est qu'ils sont, comme vous le disiez tout à l'heure, François Régis, la pavlova, on pourrait la manger simplement. Et en fait, la personne qui me l'a fait la recette s'est dit, tiens, une pavlova avec un riz au lait dedans, pourquoi pas. Voilà, on peut tout imaginer, le riz au lait s'infiltre partout où on veut.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il est vraiment merveilleux. Voilà. Et pour une fois, c'est un gâteau à base de riz qui présente très très bien. Il faut dire que le gâteau de riz, il n'est pas toujours super présentable. Mais là, il est vraiment magnifique et riche en parfums.
Incroyable, c'est vraiment délicieux. Hein.
Extrêmement riche, comme j'aime.
Et on peut le retrouver chez Caius.
Ah oui, lui, il peut vous le préparer, sans problème.
Paris
17e.
Paris 17e, absolument. Un immense merci, Philippe Toinard, d'être venu avec ces délicieuses choses à déguster. Le riz au lait, c'est mon dessert préféré. 50 recettes délicieusement régressives de chefs totalement addicts aux éditions de La Martinière avec les photos très gourmandes de Guillaume Xver. Bravo. Je l'ai bien prononcé. La semaine prochaine, on va déguster, vous propose une nouvelle masterclass, celle de Jean-François Piège, grande signature de la gastronomie française. On va le cuisiner, il va aussi cuisiner en public, mais les réservations sont closes malheureusement. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.